France Culture, il est 12h30 tout de suite. C'est le journal d'Antoine Mercier. Je vous dis bonjour tout de suite. Je ne sais pas ce qu'on
entend. On a quelque chose dans le retour.
Ouais,
bon, on se dit bonjour et on avance.
C'est un tapis d'ambiance un peu particulier.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour à tous.
Antoine Mercier, bonjour.
L'armée syrienne, soutenue par la Russie, déclenche une offensive majeure sur les quartiers rebelles d'Alep. Les avions syriens et russes bombardent intensivement maintenant depuis 48 heures la partie de la ville qui échappe à son contrôle depuis 2012. Précision dans un instant avec Valérie Crova, commentaire de Frédéric Ancel. Le nombre de mineurs signalés comme radicalisés en France, le Figaro avance le chiffre de près de 2000. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, évalue à 600 le nombre d'adolescents qui font l'objet d'un suivi pour présenter des signes de radicalisation. Précision sur ces chiffres avec Antoine Marette. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, annonce un quasi-retour à l'équilibre du régime général de la sécurité sociale pour l'an prochain. Régime général qui affichait 17,4 milliards de déficit en 2011 et qui serait donc ramené à 400 millions cette année. C'est ce qu'affirme en tout cas la ministre. Explication avec Anne-Laure Chouin. L'Inde et la France signent comme convenu la vente à New Delhi de 36 avions de chasse Rafale du constructeur Dassault pour près de 8 milliards d'euros. Et puis le groupe Internet Yahoo qui annonce avoir été victime, c'était à la fin 2014, d'une attaque informatique massive qui aurait affecté 500 millions de comptes de ses utilisateurs. Enquête dans cette édition de Louis Bellenfant, l'invité de la séquence interview, Laure Mandeville, journaliste Figaro, auteur de « Qui est vraiment Donald Trump ?» aux éditions des Équateurs et dans la dernière partie de La Grande Table, Olivia Gesbert.
Quelle différence faisons-nous entre le rire philosophe et le rire du philosophe? À partir de 12h55, nous retrouverons le philosophe et comédien Yves Cusset pour son essai qui vient de paraître chez Flammarion, Rire, Tractatus Philo Comicus. Antoine,
voilà, Yves Cusset qui vient d'entrer dans le studio et à qui je propose de dire si, par exemple, il trouvera matière à rire sur un des sujets de notre journal.
C'est pas gagné.
L'armée syrienne annonce le déclenchement donc d'une offensive majeure sur les quartiers rebelles d'Alep. Il y a des avions syriens, des avions russes qui, chacun à leur niveau, bombardent depuis 48 heures maintenant cette partie rebelle qui échappe à son contrôle, au contrôle de du gouvernement syrien depuis 2012. Selon un journaliste de l'AFP, cette partie, les hélicoptères, les avions se succèdent sans discontinuer. Les services de secours sont impuissants pour l'instant face au déluge de feu, pluie d'obus et de bombes sur une ville où vivent 250 000 habitants. L'armée a notamment demandé à ses habitants de s'éloigner des positions des groupes rebelles. Valérie Crova, les forces syriennes et russes semblent vraiment maintenant décidées à reprendre l'intégralité du contrôle de la deuxième ville de Syrie.
Ce sont les quartiers est d'Alep qui sont visés par cette offensive d'envergure, des quartiers où sont implantés plusieurs groupes rebelles, dont l'ancien front al-Nusra, qui a été rebaptisé Fatah al-Sham depuis qu'il a fait scission d'avec Al-Qaïda, ou encore Harar al-Sham d'obédience salafiste. Ces groupes réunissent plusieurs milliers de combattants qui ont tenté de briser le siège d'Alep au début de l'été, avant que l'armée syrienne ne finisse par encercler à nouveau totalement la ville. Alors pour justifier la reprise des bombardements sur Alep, le président syrien Bachar el-Assad a expliqué hier que des armes continuaient d'entrer dans les quartiers rebelles, ce qui peut laisser perplexe quand on sait qu'ils n'ont aujourd'hui aucune possibilité d'être ravitaillés par la route. Plus qu'un enjeu, Alep est devenu une obsession pour Damas et ses alliés russes qui veulent reprendre la ville et qui ne lésinent pas sur les moyens pour faire plier leurs adversaires dont ils veulent la reddition pure et simple. Selon une source militaire, les bombardements d'aujourd'hui ne sont qu'une première phase avant le lancement d'une opération terrestre.
Merci beaucoup Valérie Crova. On est en ligne avec Frédéric Ancel, géopolitologue. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi la Russie et la Syrie ont-elles décidé de déclencher maintenant cette grande offensive et surtout dans quel but ?
Alors, pour deux points, d'abord, pour deux raisons. D'abord, on parle beaucoup d'un cessez-le-feu, hein, et les négociations ont repris ces dernières semaines de façon assidue. On ne négocie jamais mieux que dans un rapport de force favorable sur le terrain, par définition. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on assiste à cette deuxième grande offensive, hein, en quelques mois, c'est que les Russes et les Syriens, cette fois, pensent pouvoir en finir sur Alep, dont je rappelle que c'est la deuxième ville du pays et que elle se situe géographiquement à la fois très près de la Turquie d'une part et d'autre part très près de la fameuse montagne littorale alaouite qui est le cœur du bastion en quelque sorte alaouite du régime donc syrien.
Mais est-ce que c'est une étape selon vous dans cette reconquête de la Syrie par Bachar al-Assad ou bien une fois Alep reconquise, eh bien Bachar al-Assad pourrait estimer qu'il a pratiquement tout repris la ce qu'on appelle la Syrie utile?
Oui, ben c'est ça. Vous avez raison de parler de Syrie utile parce qu'en réalité, à part les trois grandes villes qui sont déjà solidement sous contrôle du régime, l'ouest d'Alep également, la montagne, donc littorale dont je viens de parler, et qui abrite la fameuse base, les fameuses bases russes maintenant, bah écoutez, le reste, ce sont des villes moyennes, du désert, et puis un tout petit peu de pétrole. Et de toute façon, l'armée syrienne sait qu'elle ne pourra jamais se réapproprier l'intégralité de ce vaste territoire aux trois quarts désertique. Et par conséquent, je pense que le mot que vous avez employé est juste, ce n'est pas une étape, c'est en l'occurrence, là maintenant, une fin en soi. Je pense que la bataille d'Alep risque, par un faux paradoxe, d'être peut-être la dernière grande bataille de cette guerre civile syrienne.
Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je signale la parution aujourd'hui même de votre nouveau livre intitulé « Géopolitique de la nation française » écrit avec Yves Lacoste et publié au PUF. On salue aussi l'invité de la séquence interview, notre consoeur du Figaro, Laure Mandeville, bonjour.
Bonjour.
Qui fut pendant donc 8 ans correspondante aux États-Unis, avec qui on va reparler tout à l'heure du phénomène Trump. Pour la Syrie, bon, on le voit bien, la diplomatie est hors jeu, les Russes avancent sur le terrain. Et pour les Américains, il faut bien dire que le bilan est vraiment plus que médiocre.
Il n'est pas médiocre, il est catastrophique. Je me souviens, au mois de septembre, il y a un an, quand Barack Obama est entré en négociation avec Vladimir Poutine pour supposément trouver un accord en Syrie, cela fait un an que les Russes créent des réalités militaires sur le terrain et que John Kerry, tel un Don Quichotte du 21e siècle, tente de trouver un compromis avec la Russie. Je pense que la grande différence est que les Russes ont profité de cette période pour avancer, qu'ils ont véritablement aujourd'hui la main, que Obama avait dès le début décidé qu'il n'y aurait pas de rapport de force sur le terrain. Il est d'ailleurs en désaccord avec le Pentagone sur ce point. Et aujourd'hui, on est dans une impasse. Alors, la grande question qui se pose, c'est est-ce que le prochain président rebattra les cartes?
Est-ce que Trump fera autre chose?
Est-ce que, de manière générale, Trump ou Hillary Clinton pourront, parce qu'ils seront un nouveau président, recréer un rapport de force sur le terrain? C'est vrai que quand on a un nouveau président, il y a nécessairement un questionnement. Parce que, évidemment, ce rapport de force avec les Russes est aussi un rapport de force psychologique. Les Russes savent qu'avec Obama, jamais il ne voudra s'impliquer sur le terrain. Et c'est donc pour ça qu'il continue de faire exactement ce qu'il veut.
Laure Mandeville, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes pour donc notre séquence interview.
La radicalisation d'un nombre croissant de mineurs et de femmes et leur participation à des actions djihadistes est une des grandes préoccupations du moment pour le gouvernement.
Et oui, il y a des chiffres qui sont publiés ce matin par le Figaro concernant donc les jeunes qui seraient signalés comme radicalisés en France. Le Figaro parle de près de 2000 mineurs. Augmentation de 121% depuis le dernier recensement en janvier dernier. Interrogé sur cette information ce matin, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, parle lui de 600 adolescents qui font l'objet effectivement d'un suivi pour présenter des signes de radicalisation, ce qui n'est pas exactement la même chose que signaler comme radicalisé. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Je veux dire qu'en la matière, on ne dispose que de signes de manifestation de la radicalisation et donc les chiffres peuvent varier en fonction des critères qui sont utilisés pour la mesure du phénomène.
Effectivement, il y a dans le cas présent un décalage entre le chiffre avancé par le Figaro, 2000 mineurs signalés comme radicalisés et celui du garde des Sceaux, 600 mineurs suivis pour radicalisation. Est-ce que pour autant ces chiffres se contredisent? La réalité est sans doute plus complexe car il y a plusieurs façons de compter. Pour arriver au chiffre de 600, le ministre de la Justice additionne les 179 mineurs poursuivis par la justice, dont 110 pour apologie du terrorisme et les 364 mineurs simplement suivis par la protection judiciaire de la jeunesse car présentant des signes de radicalisation. On arrive à un peu moins de 600 mineurs auxquels on peut ajouter 146 autres suivis pour la radicalisation de leurs parents. On reste très loin du chiffre du Figaro qui évoque donc 1954 mineurs signalés comme radicalisés. Pour arriver à ce chiffre, le quotidien se base sur la plateforme anti-djihad mise en place en avril 2014. Le numéro vert qui permet par exemple de signaler le changement de comportement d'un proche. Mais un mineur signalé n'est pas automatiquement poursuivi ni même suivi, d'où ce décalage entre les deux chiffres. Une chose en revanche est sûre, le nombre de mineurs radicalisés augmente fortement et c'est une tendance lourde qui s'inscrit dans la durée. Le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas l'a reconnu ce matin. Les récentes arrestations d'adolescents suspectés de terrorisme ne sont donc que la partie émergée de l'iceberg.
Merci beaucoup Antoine Maret. A signalé encore une interview d'Alain Juppé au Monde qui dénonce l'hystérie actuelle en France dans le débat sur l'islam. Il faut absolument apaiser le climat, dit-il. Le simple mot de musulman suscite une hystérie disproportionnée. Si nous continuons comme ça, nous allons vers la guerre civile. Moi, je veux la paix civile et je ne serai pas un prophète de malheur. Je veux donner aux Français une espérance dans l'avenir. Fin de citation. Yves Cusset, bonjour.
Bonjour.
Ça va, bon, toujours pas matière à rire là dans ce débat.
C'est difficile parce que oui, Juppé parlant de l'hystérie, oui, effectivement, c'est un candidat propre à calmer l'hystérie, peut-être à la calmer parfois un peu trop, mais c'est-à-dire qu'en même temps, du coup, il évoquera pas sa pensée là-dessus. C'est compliqué d'aujourd'hui de pouvoir exprimer une pensée sur l'islam. Pour des gens comme ça, en fait, c'est un moyen d'éviter d'avoir à évoquer le sujet pour lui aussi. Il a botté en touche et il a bien raison d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, effectivement, il faut le faire aussi sur ces thèmes-là.
Merci Yves Cusset, vous restez avec nous pour cette édition.
Vous êtes dur avec notre invité, Yves Cusset, qui aura plus de temps pour se déployer, effectivement, dans la dernière partie de la grande table.
C'est la première fois que j'ai dit qu'Alain
Juppé
a bien raison. J'assure que ça m'arrivera
plus. France Culture, il est midi 40, à la suite du journal d'Antoine Mercier. Le quinquennat de François Hollande signera la fin des déficits sociaux. Déclaration de la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, qui annonce dans une interview aux Échos un quasi-retour à l'équilibre du régime général de la sécurité sociale l'an prochain.
Nous sommes à la veille de la présentation de ce projet de budget de la Sécu et donc la ministre affirme qu'en 2017, le régime général, c'est-à-dire maladie, plus retraite, plus famille, plus accident du travail, qui affichait un déficit de 17,4 milliards d'euros, eh bien ce déficit va être ramené à 400 millions. Anne-Laure Chouin, comment est-ce qu'on peut rendre raison de ces résultats?
Alors sur les quatre branches que compte la sécurité sociale, trois en ont bientôt terminé avec les déficits. La branche vieillesse d'abord, qui devrait même afficher un excédent de 1,6 milliard d'euros en 2017, essentiellement grâce au relèvement de l'âge légal de départ à la retraite et à la très faible revalorisation des pensions. Quant à la branche famille, la modulation des allocations familiales entrée en vigueur l'année dernière lui a permis de continuer à se redresser. Tout va mieux également pour la branche accident du travail. Reste l'homme malade de la sécurité sociale, c'est ainsi que l'appelle la Cour des comptes, la branche maladie qui porte sur ses seules épaules le déficit du régime général. Un déficit qui, vous l'avez dit, sera pourtant le plus faible jamais atteint depuis 2001. Certes, c'est sans compter pour l'instant sur la revalorisation accordée aux médecins libéraux qui verront au 1er mai prochain le tarif de leur consultation passer de 23 à 25 euros. Vont encore s'ajouter celles du point d'indice des fonctionnaires hospitaliers. Enfin, d'autres secteurs de la santé veulent aussi leur part du gâteau. Ce qui fait que l'objectif national des dépenses de santé pour 2017, on appelle ça l'ONDAM, a été relevé pour l'année prochaine à 2,1%. Alors Marisol Touraine soutient que ces économies ont été obtenues grâce à des réformes structurelles et notamment par le fameux virage ambulatoire qui induit notamment la fermeture de nombreux lits d'hôpital. D'autres analystes estiment, eux, que cette embellie du régime général était à prévoir puisqu'elle est surtout due à ce qu'on appelle un effet recette, une hausse du volume des cotisations sociales qui ont augmenté mécaniquement en suivant la courbe du PIB. Plus ce dernier augmente, et il augmente, même peu, plus le volume des cotisations augmente. Tout cela conjugué à une maîtrise des dépenses de santé plutôt bien assurée et à des recettes venues de la hausse de certaines taxes type tabac, le taux de croissance français, certes mou, a peut-être plus fait pour la Sécu que la ministre de la Santé.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Yves Cusset, le trou, combler le trou.
Moi je trouve qu'on entend énormément de bonnes nouvelles. Ouais, là, hein. Ouais. L'augmentation du PIB, ouais. Le taux de croissance qui est plein de sollicitudes pour la sécurité sociale. Moi je suis très heureux d'entendre ça, je pense que tout le monde se réjouit intérieurement hein, de ces belles nouvelles. Et le trou de la sécu, alors moi je suis inquiet parce que je pense aux comiques, il paraît qu'il y a des spectacles comiques, c'est une pub qui est récurrente, qui devrait être remboursée par la sécu. Vu la démultiplication des spectacles comiques, ça risque de renforcer le trou de la sécu. Et il faudrait éviter ça, en tout cas. Voilà. Il faudrait plutôt des spectacles tragiques.
Autre bonne nouvelle, selon vous, Yves Cusset, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui signe à New Delhi le contrat pour la vente de 36 chasseurs Rafale à l'Inde, donc prix de la transaction près de 8 milliards d'euros. Contrat le plus cher jamais décroché par l'aéronautique militaire française. Et c'est Sébastien Farcy qui était sur place pour la signature.
Une salle exiguë où se servent fonctionnaires gradés et une vingtaine de journalistes, des petites tables pour accueillir les précieux documents, la signature attendue depuis 9 ans au ministère de la Défense tenait de l'intime. Une sobriété qui contraste avec les sommes échangées, 7,8 milliards d'euros grâce au paraf des deux ministres. Les autorités indiennes ont fait profil bas jusqu'au bout dans la finalisation de ce contrat historique, premier achat d'avions de chasse par l'Inde depuis 20 ans et plus importante vente de Rafale à l'étranger. La discrétion est de mise. Aucun ministre indien n'a publiquement confirmé que l'acquisition avait été approuvée, ce qui a empêché Dassault ou le gouvernement français de se réjouir ouvertement. Chose rapidement rectifiée, l'avionneur français vient de se féliciter dans un communiqué sans pour autant donner les détails sur le montant de la vente ni le contenu du contrat.
Midi 45 sur France Culture, c'est l'une des intrusions informatiques les plus importantes ayant jamais visé une entreprise américaine. Le groupe Internet Yahoo annonce avoir été victime fin 2014 d'une attaque informatique massive perpétrée par une entité probablement liée à un État. Elle aurait affecté 500 millions de comptes de ses utilisateurs.
Et les pirates ont donc volé des informations personnelles, nom, date de naissance, adresse électronique, numéro de téléphone ou même mot de passe. Yahoo assure toutefois que les données bancaires des utilisateurs n'ont pas été affectés, il faut donc les croire. A priori, le portail américain ne donne pas le nom de cette fameuse entité qu'il soupçonne du vol. Bonjour Louis Bellenfant.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on sait de cette vaste attaque à l'heure qu'il est ?
Eh bien forcément, Yahoo n'a pas donné de détails sur la manière dont cette attaque s'est déroulée. Ses experts sont encore au travail. Mais l'entreprise américaine a reconnu à demi-mot que toutes ces données n'étaient pas suffisamment chiffrées, notamment les questions-réponses qui permettent de récupérer son mot de passe. Impossible de savoir si c'est par ce biais-là que l'attaque est venue, mais comme nous l'explique Vincent Joubert, un expert en cybersécurité, il suffit parfois d'une micro-faille pour que les hackers pénètrent tout le système. Pour faire simple, ils n'ont besoin que d'une petite porte d'entrée pour ensuite dévaliser tout le magasin. Alors, qui se cache derrière un tel piratage ? Yahoo accuse une entité qui pourrait être liée à un État. Un argument qui revient souvent, selon les experts. Les entreprises préfèrent dire que l'attaque a été menée avec le soutien d'une structure étatique plutôt que par une bande de hackers isolés. Si, en théorie, une seule personne peut dérober des millions de données, il serait plus probable, d'après Vincent Joubert, que là, ce soit une structure organisée de plusieurs personnes. Il pense d'ailleurs qu'au vu de la nature des données collectées, il pourrait s'agir de cybercriminels. Dans ce cas de figure, le but recherché n'est pas politique, mais plutôt de se faire de l'argent en revendant sur Internet les informations piratées.
Voilà donc à quoi ça sert de voler des données. Cela dit, ça se multiplie, ces attaques. Ce n'est pas la première fois, notamment, que Yahoo est victime d'une attaque de pirates.
Oui, effectivement, en 2012, déjà 450 000 mots de passe et noms d'utilisateurs avaient été dérobés. Puis l'année suivante, dans la foulée du scandale Snowden, on avait découvert que la NSA avait récolté des informations sur les utilisateurs du portail américain. Mais Yahoo n'est pas un cas isolé. Plusieurs grands groupes américains, tels que la banque JP Morgan ou Sony Pictures, ont subi des attaques d'envergure au cours des derniers mois. Certains spécialistes parlent d'une industrialisation du pillage des données. Devant cette menace permanente, Yahoo avait renforcé la sécurité de son système. Mais visiblement, ça n'a pas suffi et cette nouvelle cyberattaque tombe au plus mauvais moment pour Yahoo. La branche Internet du groupe américain doit être vendue en juillet à l'opérateur américain de télécom Verizon.
Merci beaucoup Louis Bellenfant. 12h48, la séquence interview avec donc Laure Mandeville du Figaro, auteur de « Qui est vraiment Donald Trump ?» aux éditions des Équateurs, à la lecture de votre livre. Laure Mandeville, on a quand même l'impression que l'image qui prévaut, c'est celle qu'on se fait de ce personnage, entrepreneur, médiatique, anti-système, et qui prétend surtout qu'il suffirait qu'il soit élu pour que les problèmes se règlent aux États-Unis.
C'est pas exactement ce qu'il dit. C'est vrai que il y a évidemment Trump. Trump est un personnage pour moi plus complexe en fait que juste le showman. C'est le showman, c'est la caricature, c'est l'homme qui a un talent absolument incroyable pour surfer sur Twitter, sur tous les réseaux télé et pour aussi capter avec un instinct presque surnaturel les angoisses, les anxiétés de la population américaine. Et c'est ce qui fait son énorme succès aujourd'hui. Mais c'est aussi un personnage, à mon avis, plus complexe que l'image qu'on en a eu à la fois dans la presse américaine, dans la presse française, notamment sur l'idée que ce serait un nouveau Hitler, un nouvel Hitler, un fasciste. Je pense que c'est un personnage en réalité inclassable qui va pêcher à droite et à gauche des idées, parfois des idées vraiment de gauche dans tout ce qui est la protection sociale, le protectionnisme économique, la remise en cause du sacro-saint doxa conservatrice du libre-échange. Tout ça, c'est plutôt la gauche. Et c'est la droite de l'autre côté pour, évidemment, l'idée de du respect des frontières, de la lutte impitoyable contre l'immigration illégale, qui est vraiment ce qu'il a projeté au summum des sondages dès le jour où il s'est mis à parler et à annoncer sa candidature. Il n'en est jamais redescendu depuis, pendant toutes les primaires, ce qui est absolument stupéfiant, ce qui s'est passé aux États-Unis, que ce personnage qui était en fait voué aux gémonies par l'ensemble du Parti républicain, a emporté la nomination de ce parti. Donc c'est un personnage, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer. Il va certainement nous surprendre, comme il a surpris tout au long de cette année.
Alors, en vous entendant, ni gauche ni droite, vraiment, on en vient à penser ce qu'on appelle les populismes en Europe, finalement, qui sont un peu quand même sur ces mêmes bases. Est-ce que vous confirmez l'analogie ?
Oui, absolument. Je pense que Trump, comme les gens qui ont porté le Brexit, ou comme aujourd'hui Marine Le Pen, mais avec un cadre français, c'est la même veine, c'est-à-dire c'est une rébellion, je dirais globale, occidentale, contre à la fois le credo de la globalisation, disons heureuse, pour reprendre l'expression d'Alain Juppé, et aussi le credo de l'identité heureuse. Je crois que c'est une révolte contre le multiculturalisme, dans la mesure où c'est l'idée que le multiculturalisme n'est pas nécessairement heureux et que l'immigration sans fin peut devenir un énorme problème et une catastrophe pour l'Occident. Donc c'est en fait une manière de dire il faut qu'il y ait des frontières. Et moi, tous les gens qui votent pour Trump, que j'ai rencontrés dans les meetings à travers le pays, me disaient pourquoi dites-vous que Trump est un raciste ? Simplement parce qu'il veut faire respecter les frontières et les lois. Un pays qui n'a pas de frontières n'est pas un pays.
Manuel Valls parlait il y a quelque temps de Trumpisation des esprits en Europe. Vous diriez ça aussi ou finalement c'est le...
Je ne sais pas si on peut parler de
c'est
Trump.
C'est dans l'air un peu partout,
oui,
en Occident.
Moi, je ne pense pas que ce soit une Trumpisation. Enfin, je pense que ce sont des phénomènes similaires qui se produisent au même moment parce que nous sommes confrontés au même problème. C'est aussi le problème du terrorisme qui frappe les États-Unis dans une moindre mesure que l'Europe. Mais il y a une inquiétude absolument majeure qui a fait émerger ce personnage improbable. Mais c'est pour ça qu'il est aussi fascinant. Ce qui est très intéressant chez Trump, c'est qu'il a survécu, c'est qu'il paraît indomptable. Et donc, moi, j'engage en réalité à une grande prudence sur ce que serait Trump président et sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. On va peut-être être très surpris, peut-être qu'il va gagner. Moi, je pense qu'il a une bonne chance de gagner. Et s'il est élu, je pense qu'il y a une véritable inconnue sur ce qu'il serait. Nous savons qu'il pourrait y avoir de gros risques si ce personnage décide, par exemple, de mener un pays comme il a mené ses business, parce qu'il a parfois pris des libertés énormes avec, il a été dans les zones grises, il a utilisé des personnages peu recommandables. Je raconte dans le livre que les avocats qu'il utilisait étaient des personnages qui défendaient aussi la mafia, mais aussi l'archevêché de New York. Enfin, c'est très haut en couleur. Et en fait, c'est un personnage obésien pour moi. C'est-à-dire qui pense que le monde est méchant, cruel, et qui dit aux Américains, contrairement à ce que leur avait dit Obama, je ne vais pas vous réconcilier avec le monde, mais je vais vous défendre contre les dangers de ce monde.
Alors, ce qui est un peu... vous avez l'air de pas rigoler du tout.
Moi je trouve ça assez incroyable. Mais il fait plutôt penser à Berlusconi. C'est plutôt cette figure-là qui vient à l'esprit. Un homme extrêmement fortuné qui s'est fait en grande partie lui-même et qui veut maintenant utiliser cet argent pour se donner un pouvoir politique sur son pays. Ça fait peur. Protéger du monde d'où il émane, c'est ça. Là, il y a quelque chose de très très peu crédible là-dedans. Voilà, moi, c'est le personnage qui me fait très peur, Donald Trump, un peu comme à beaucoup. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans.
Laure Mandeville, on revient vers vous, parce que ce qui est un peu désarçonnant, on va dire, vu d'ici, c'est que, justement, vous le disiez, il n'est pas du tout, il est anti-conservateur, oui, au sens les néo-conservateurs. Sur le plan extérieur, il ne veut pas intervenir à l'extérieur. Il est contre la politique de Bush, etc. Et sur le plan économique aussi, il y a cette position de résister à la mondialisation et plutôt à se replier. Donc ça en fait un personnage effectivement assez double. Est-ce que là-dessus, vous avez le sentiment que qu'il est en phase malgré tout aussi avec les Américains ?
Exactement.
Qui ont toujours eu quand même une vision un peu universaliste et libérale ?
Eh bien justement, il y a toujours eu, en fait quand vous lisez les auteurs qui ont théorisé un peu la politique étrangère des États-Unis, vous vous apercevez en fait que l'Amérique fonctionne par mouvement de balancier. Donc vous avez des mouvements, il y a un livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Maximaliste et qui raconte comment vous avez des présidents maximalistes, c'est-à-dire qui vont intervenir à l'extérieur, style George W. Bush, mais aussi Reagan, ou qui vont être proactifs. Et vous avez des présidents qui en général viennent après les proactifs, qui sont dans le repli. Mais ce qui est intéressant, c'est que après la période Bush, on a eu la période Obama, et Obama a été justement un
donc,
président qui a voulu,
de l'autre côté.
Voilà, ouais. Pas nécessairement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un moment, ce que j'appelle le moment réaliste, c'est-à-dire que l'Amérique ne veut plus être interventionniste à tout craint. Les Américains en ont marre de payer pour la sécurité des Européens et des Asiatiques, par exemple leurs alliés coréens, japonais. Et donc c'est vrai que Trump colle avec un mouvement beaucoup plus large, et ça sera intéressant de voir si finalement, parce que ce personnage peut changer complètement d'avis, il décidera de s'en aller dans une aventure alors qu'il avait annoncé qu'il serait un président prudent.
Une seconde. Le volcan Trump, événement historique et pas politique. C'est ce que dit l'ancien speaker de la Chambre, Newt Gingrich, que vous citez dans votre livre.
Oui.
Ça veut dire quoi, historique et pas politique ?
Ce qu'il veut dire par là, c'est que pour lui, on est dans un mouvement de rupture. C'est-à-dire qu'au-delà du phénomène Trump, du phénomène personnel Trump et du phénomène politique, Gingrich pense qu'on est dans un mouvement historique de rupture en Occident. Et c'est pour ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, moi je pose la question dans le livre, est-ce qu'on est en 1789 ? C'est-à-dire un moment où les élites, où Marie-Antoinette regardait par la fenêtre du château de Versailles et voyait arriver les paysans avec leurs fourches et pensait que ça passerait, ou est-ce que cette révolte va durer ?
Laure Mandeville, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qui est vraiment Donald Trump ? C'est donc le titre de votre livre publié aux éditions Les Équateurs. Le soleil va dominer cet après-midi, des passages nuageux sur le nord et sur le quart sud-est, température 20-27 degrés, édition réalisée avec M. Les Chili, 17h le magazine sur l'Estonie, un musée pour guérir du passé, Bruno Cadenne, Annie Brault et Tara Schlegel, prochain journal 18h, Anne Fauquemberg.